Bienvenue à bord du vaisseau Hyper Sensas.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinexplore. Ce mois-ci, j'ai eu envie de parler transmission, éducation et enseignement. Je me suis donc dirigé vers l'école de cinéma 3IS de Bordeaux pour échanger avec l'un de leurs professeurs, Christophe Layton. Ensemble, on a discuté de comment enseigner l'art, quelle méthode employer, pourquoi c'est compliqué de transmettre, pourquoi c'est aussi passionnant, et bien entendu, comme toujours, on a parlé de notre rapport au cinéma, à la salle de cinéma, et on a comparé nos usages avec ceux de la génération à venir avec laquelle Christophe est en contact quotidiennement. J'espère que cet entretien vous plaira. Bonne écoute à tous. Christophe Layton, merci de me recevoir dans les locaux de l'école 3IS de Bordeaux. Vous êtes réalisateur et assistant réalisateur, mais je vous rencontre aujourd'hui pour quelque chose de différent, puisqu'on va parler de transmission et d'éducation en quelque sorte. On va parler de votre travail en tant qu'enseignant au sein de l'école de cinéma 3IS. Ma première question est relativement simple. Comment en êtes-vous venu à l'enseignement ?
Alors, j'en suis venu à l'enseignement parce que à l'époque où... À l'époque, je réalise toujours, hein, mais il y a presque une dizaine d'années. Je travaillais en collaboration avec un producteur de la région qui s'appelle Zangro et qui intervenait déjà à 3e. Ça, à l'époque, ça s'appelait Adams.
D'accord.
3IS.
Ouais.
Et un jour, il y a un cours qu'il n'a pas pu assurer. Donc, il m'a demandé si j'étais intéressé.
Mm-hmm.
Ce que j'ai fait, oui, avec plaisir et un peu d'appréhension parce que c'était une première pour moi. Ben, ça m'a plu et on m'a demandé de revenir. Et j'ai dit oui, et c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'engrenage.
Du coup, complètement par hasard, quoi, en fait.
C'est bah, par hasard, oui.
Alors, au contraire de la peinture, de la sculpture, de l'écriture, le cinéma est un art qui combine plusieurs savoir-faire. Puisque donc, vous êtes réalisateur, vous savez bien qu'on mène des équipes avec plein de gens. Quelle est alors la meilleure manière de l'enseigner, selon vous ? Parce que ce que je veux dire par là, c'est comment on dit à un élève, le cinéma, faire un film, c'est ça. C'est compliqué parce qu'il y a des gens qui vont avoir plus d'affinité avec le son, tout ça. Est-ce qu'il faut l'aborder d'une manière globale ou alors, au contraire, est-ce qu'il faut diviser l'apprentissage par discipline ? J'attends pas une réponse définitive, évidemment, mais plutôt votre vision.
Non, mais justement, moi, je pense qu'il faut diviser parce que c'est pour ça qu'on a plusieurs cours. Sinon, on n'en ferait qu'un avec un seul intervenant. Donc, on a mise en scène, culture visuelle, histoire du cinéma, même culture scientifique, par exemple. Culture visuelle, on aborde beaucoup l'histoire des arts, la peinture, la sculpture. Mais au final, c'est pour le connecter au cinéma d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est ça qui est intéressant et qui est beau avec... avec cet art-là, comme vous dites, c'est qu'il combine tous les autres. Donc, on va avoir aussi des cours d'analyse de bande sonore, d'analyse de BO de films. Et voilà, on essaye d'enrichir les connaissances aux étudiants pour qu'après, avec toutes ces connaissances, ils les combinent et ils le fassent en un film.
C'est un peu ma sensation, c'est qu'effectivement, il va falloir aller piocher un petit peu dans l'histoire de l'art d'une manière générale. Donc la peinture, vous mentionnez la peinture, qui est intéressant au niveau du cadrage notamment, au niveau de pourquoi il a choisi de placer ses personnages de cette manière-là, pourquoi est-ce qu'il peint comme ça et pas comme ça, quelle lumière aussi il va utiliser, est-ce que c'est clair-obscur, est-ce que c'est autre chose. Et j'ai l'impression que le cinéma combine effectivement toutes ces choses-là, et notamment aussi de l'art audio, hein, au niveau non seulement de la musique, vous l'avez mentionné, mais aussi au niveau de comment on va utiliser la bande-son du film pour faire soumettre, enfin, ou peut-être dire au spectateur des choses d'une autre manière, lui suggérer des choses. Et du coup, oui, c'est intéressant effectivement de diviser tout ça. La question que je me posais, en fait, c'est, j'imagine que vous ne formez pas que des réalisateurs. Donc, est-ce qu'il y a des gens, vous sentez tout de suite qu'ils ont des affinités avec le travail de réalisateur qui, je le répète, est celui qui va peut-être combiner tous ces arts-là, parce qu'il va falloir que le réalisateur aille parler à tous ces artisans-là en disant bah, « je vais parler aujourd'hui au département du son, on va voir ça, comment on peut améliorer cet aspect, ensuite je vais parler avec mon cadreur, ensuite je vais parler avec telle autre personne ». Est-ce que vous sentez tout de suite des élèves qui sont comme ça, qui sont intéressés comme ça ? Ou alors est-ce que vos élèves, ils arrivent et ils disent « moi je vais être réalisateur » et en fait après, en étudiant les différents aspects, vous allez les rediriger parce que vous sentez bien qu'ils ont une plus grande affinité avec tel aspect ou tel autre aspect ?
Alors là, on a tout type d'étudiants, on a les deux catégories. Ceux qui arrivent en sachant vraiment qu'ils veulent être dans la réalisation, mais sans se faire une idée précise, c'est un métier qui est idéalisé. Hein. Parce que voilà, ça c'est une des premières choses que je dis en première année, premier cours, c'est réaliser, c'est pas juste imaginer des jolis plans. Parce que ça, c'est l'idée qu'on peut se faire. Et on en a d'autres qui savent pas trop où se diriger, donc c'est pour ça que notre première année est un tronc commun, où on voit aussi bien l'image que le montage, que le son. Et certains partent dans l'idée, hein, par exemple, d'être réalisateur, mais au fur et à mesure se disent « Ah, ben en fait, l'image, ça me convient un petit peu plus. » Donc voilà, on a vraiment tout type d'étudiants, de profils. Mais nous, intervenants, avec l'expérience, vraiment, on voit dès les premières semaines, les premiers mois, ceux qui vont aller loin ou ceux qui vont plus s'intéresser que les autres. Ouais, ça, c'est quelque chose qu'on arrive vraiment à distinguer assez facilement avec le temps.
Est-ce que vous pensez qu'un film peut en lui-même être une source d'apprentissage? Donc là, ma question, clairement, c'est est-ce que, quand on n'a pas eu la chance, comme moi, de faire une école de cinéma, quelque chose que j'aurais probablement beaucoup aimé faire, est-ce que voir des films, ça va être une école aussi? Alors, évidemment, pas aussi complète qu'un cursus avec un tronc commun. Je n'ai pas cette prétention, hein, bien entendu. Mais est-ce que quand même, on peut vraiment apprendre beaucoup en regardant un film? Et est-ce que vous, à l'école, vous montrez parfois des films ou des extraits de films en disant « là, vous allez apprendre quelque chose » ?
Oh, mais c'est totalement le cas. On a des cours d'analyse filmique où soit on regarde le film en entier, soit on pioche quelques séquences et on analyse vraiment en détail. Et c'est à ça qu'on voit les bons réalisateurs. Hein. C'est ceux qui ont une identité et qui ont plein de choses à dire sans forcément les dire oralement. Ça peut passer par le papier peint de la chambre ou par la manière dont il est habillé, la marque de cigarette dont fume le personnage. Tout ça, c'est des détails que le réalisateur a placés dans le film et qui nous donnent des indices. Après, les indices, ben, il faut savoir les interpréter. Faut pas faire de la suranalyse. Mais en tout cas, oui, regarder des films, c'est un bon apprentissage. Après, c'est encore mieux si on a le making-of derrière. Parce que vraiment, là, on voit les coulisses de pourquoi ça a été fait, comment on l'a fait. Mais alors, attention, parce que justement, on distingue deux choses à l'école, et c'est la subtilité. On apprend pour travailler dans le domaine audiovisuel.
Ouais, ouais.
On vient pas ici
pour faire de
l'analyse, parce qu'on aime parler de cinéma.
Ouais,
c'est différent. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire entre amis. Et donc, on a eu quelques étudiants qui, au moment de fournir du travail, il n'y avait plus personne parce qu'eux, ils se disent « Ah, on va parler cinéma, c'est cool, c'est suffisant. » Eh bien non, derrière, il y a du travail à fournir, comme dans toutes les écoles supérieures.
Quel rôle joue la transmission dans le système d'apprentissage que vous appliquez chez 3IS? Alors, encore une fois, plus concrètement, est-ce qu'il est important de connaître l'histoire du cinéma pour faire un bon film? Vous y avez forcément déjà un petit peu répondu. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté transmission, vraiment film de patrimoine. Donc, parce que le podcast est très orienté film de patrimoine. Est-ce que vous avez vraiment un cours d'histoire du cinéma? Est-ce que vous allez piocher et pour voir l'évolution, est-ce que vous amenez vos élèves en disant, voilà, dans les années 50, on faisait comme ça, dans les années 60, on a fait comme ça, puis après, dans les années 70, on a encore fait différemment. Est-ce que c'est quelque chose qui est important? Est-ce que vous avez même une mission? Est-ce que vous fixez une mission de transmission? Ou alors, est-ce que c'est juste, on va piocher dans l'histoire du cinéma parce que c'est important, mais on n'a pas une mission de transmission à proprement parler?
Ouais, pour nous, c'est important parce que sans ça, sans l'histoire du cinéma, sans les grandes références, les étudiants ne donneraient pas du sens à ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils feraient que de la technique, que des jolis plans. Ils auraient la forme, mais sans le fond. Et c'est important de leur donner du fond, justement. Pourquoi ils veulent parler de ça? Qu'est-ce que ça dit? Inconsciemment, hein, pour la plupart. Hein, ils sont influencés malgré eux. Mais la manière dont ils vont cadrer vient de quelque part. D'un film qu'ils ont vu, d'un réalisateur qu'ils affectionnent. Mais comment ce réalisateur lui-même s'est formé? Et donc, c'est pour ça que sert le cours, par exemple, d'histoire du cinéma, en première année. En deuxième année, c'est un peu plus poussé avec esthétique de l'image. Mais c'est sûr qu'on va aborder les films muets, le passage en couleur, le passage au parlant, des grands épisodes comme ça, comme évidemment La Nouvelle Vague. Parce que voilà, par exemple, les étudiants, évidemment, et même le grand public, hein, aime bien le cinéma de Scorsese, Spielberg, ouais, George Lucas,
Nouvelle Hollywood,
ce qu'on appelle le Nouvel Hollywood. Mais voilà, ce que certains ignorent sûrement, sauf les cinéphiles, c'est que ils ont été influencés par la Nouvelle Vague. Donc voilà, se dire que l'idole de Spielberg, c'est Truffaut, que George Lucas, il adore Godard, voilà ce qui les a influencés. Et eux-mêmes ont influencé un cinéma plus moderne. Donc c'est ça qui est beau, c'est cette transmission, d'où ça vient. Et donc ça, c'est important pour nous de l'inculquer aux étudiants pour que tout ce qu'ils fassent ait du sens.
Ouais. Comment, dans la mesure où le cinéma est un art, comment on apprend à ses élèves à faire du bon art ? Est-ce que ça doit être un but, d'ailleurs, de cet apprentissage? Parce que l'idée, c'est en fait Vous en avez parlé de la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague s'est construite beaucoup en opposition à la manière qu'on avait de faire des films dans les années 50 notamment. Alors on parle de cinéma français, mais on parle aussi de cinéma américain. Hein. Eux, ils n'avaient pas pour but de faire du bon cinéma dans le sens où on l'entendait. Ils ont cassé toutes les règles techniques. Après, on peut aimer ou pas aimer le résultat, mais en attendant, au niveau technique, il y a une vraie rupture qui se fait à cette époque-là. Est-ce que vous, en tant qu'école, vous encouragez vos élèves justement à casser ces barrières-là? Ou alors est-ce que vous dites non, il y a des règles, il faut les respecter, même si elles sont plus libres que dans les années 50, il y a quand même une manière de faire les choses.
Le bon art, pour moi, là c'est personnel.
Hein. Oui, bien sûr, toujours, l'art subjectif. Hein,
voilà, ça n'existe pas, justement, que ce soit dans le cinéma, dans la peinture, dans la musique, il en faut pour tous les goûts. Il y en a qui vont aimer, d'autres non, mais personne n'a tort ou personne n'a raison. Et c'est ça qui est beau, justement. L'important dans l'art, c'est de susciter l'intérêt, voilà, qu'on aime ou pas. Après, ce qui va aller plus loin, c'est échanger avec l'autre. Pourquoi on a aimé, pourquoi on a détesté, évidemment, que ce soit bien argumenté. Hein. Sinon, c'est facile de dire c'est nul et puis on passe à autre chose. Mais ici, à l'école, on ne va pas leur apprendre un bon art. On va leur apprendre à comment raconter de la meilleure manière ce qu'eux ont en tête. Certains viennent avec déjà des facilités d'écriture ou de mise en scène qu'on va affiner, qu'on va aiguiser. Et d'autres viennent, partent de zéro. Donc là, on ne peut pas leur apprendre à devenir artiste. On va leur apprendre des bases. Peut-être ce sont des étudiants qui vont plus s'intéresser à la technique, plus qu'à ce qui est artistique, donc la mise en scène, par exemple. Mais on va leur apprendre, un bon film, c'est pas tant le thème. On va leur apprendre plutôt à faire en sorte à ce que le son soit audible, à ce que le son grésille pas, que l'image soit pas floue. Parce que si on prend même le plus mauvais des films qui passent au cinéma, techniquement, il est bon. Après, c'est le thème qui plaît ou pas. Mais voilà, on peut faire le film le plus parfait en termes scénaristiques et direction d'acteur. Mais si on a un son qui grésille ou le plan qui est bancal, ça passe pas.
Alors justement, j'affine ma question parce que c'est très intéressant. Là, je lis en ce moment un bouquin sur le nouvel Hollywood, justement, et il y a un film dont il est question, un film de Robert Altman, j'ai oublié le titre évidemment, avec Warren Beatty, les auditeurs retrouveront. Dans ce film-là, on n'entend quasiment pas les dialogues, c'est reconnu comme un point de rupture aussi, peut-être comme si on avait un peu poussé les limites du nouvel Hollywood. Altman, très tôt, l'a fait, pour aller chercher un petit peu jusqu'où on pouvait aller. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé face à ce cas de figure avec des élèves? Je pense notamment, j'imagine que vous avez un projet de fin d'études, donc vous devez visionner pas mal de films de fin d'études. Est-ce que ça a été le cas? Quelle a été votre réaction, si ça a déjà été le cas ou pas, si vous vous retrouvez par exemple face à une image floue, face à du son qui grésille et qu'on vous dit oui, mais c'est l'intention en fait. Mon intention, c'est ça.
En première année, plus qu'en deuxième ou troisième, hein, pour chaque projet, les étudiants ont un cahier des charges qu'ils doivent respecter. Évidemment, c'est arrivé que certains débordent un petit peu ou
prennent leur liberté.
Tout à fait le cahier des charges. Mais tant que le film est apprécié par le jury, ça ne nous dérange pas parce que justement, on considère qu'ils ont pris des risques et que ça paye, ça marche. Alors, on préfère ça plutôt qu'un film sage, posé, qui a tout bien respecté, mais qui n'a pas grand-chose à dire, qu'un film qui a osé et qui transgresse un petit peu les codes. Et ça, oui, ça nous est arrivé. Et c'est ce qu'on attend à chaque fois, puisqu'on attend la surprise.
Comme quand on va au cinéma, finalement.
Mais voilà.
On attend de se faire un peu bousculer, d'explorer des mondes qu'on ne connaissait pas.
Oui, on a envie de voir de l'innovation un petit peu. D'autant plus, nous, intervenants, tous les ans, on regarde des films d'étudiants par centaines.
Ouais. Et vous allez au cinéma, j'imagine.
En plus, on va au cinéma. Et donc, forcément, comme pour un cinéphile, plus on voit des choses, plus on devient frustré. et blasé, peut-être, le mot est fort. Donc, c'est pour ça que quand la surprise arrive, alors là, on est enchanté, parce qu'on voit des choses qui n'ont pas été faites ou que trop rarement dans le passé. Et pour revenir à Robert Altman et ce film en particulier, que les auditeurs retrouveront, il tente, il a raison de tenter.
Oui, particulièrement à cette époque, où on est en train de chercher un peu les limites.
Comme aujourd'hui, les étudiants, nous, on les encourage à tenter des choses, parce que on est à l'école, justement. Si ce n'est pas ici qu'on va essayer, ça ne sert à rien. Donc, on tente des choses. Après, pour le cinéma plus traditionnel, ça devient compliqué d'innover. Mais on sait très bien qu'il y en a un prochainement qui va y arriver, qui va bluffer tout le monde. De quelle manière? Et ça ouvre à une nouvelle question. Et c'est quelque chose qu'on discute avec les étudiants aussi. On leur conseille de faire le film qu'ils veulent, le film qu'ils ont en tête, et pas le film qui va épater les spectateurs. Ça, c'est la mauvaise manière de penser. Je pense que James Cameron, quand il a fait Titanic, il s'est pas dit « je vais en mettre plein les yeux à tout le monde ». Je pense qu'il s'est dit « je vais faire le film que moi j'ai en tête, le film que je veux, qu'il plaise ou pas, ben, ce sera mon film ». Donc c'est ce qu'on essaye aussi de dire aux étudiants.
Ouais, c'est intéressant parce que c'était ça vraiment la question, c'est de savoir l'histoire du cahier des charges. Je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, c'est intéressant de savoir que vous avez un cahier des charges. Vous n'encouragez pas les élèves à le piétiner, mais si quelqu'un va outrepasser ces limites-là, ça, en tout cas, c'est pas sanctionné, quoi. Ça, c'est ça qui m'intéressait.
En première année, le cahier des charges est assez fourni. Et ça, c'est quelque chose qui peut frustrer les étudiants. « Ah, mais on n'a pas le droit de tourner la nuit, on n'a pas le droit de tourner avec des enfants, on n'a pas le droit d'aller à Montpellier. » Ben oui, mais c'est comme ça. Et en fait, c'est comme si on leur tenait la main. Plus ils sont cadrés, plus le projet est facile à faire. Et ça, c'est ce qu'on leur dit, mais c'est avec le temps qu'ils l'assimilent. C'est que plus ils avancent dans leur cursus, deuxième et troisième année, plus le cahier des charges va devenir léger. Jusqu'au dernier projet de fin de troisième année, où là, c'est une fiction avec du matériel professionnel. Hein. Toute une équipe, une vingtaine de techniciens, le scénario qu'ils ont voulu écrire. Donc, c'est vraiment liberté totale. Et là, ils sont sans filet. Mais c'est plus compliqué parce que, supposons que le film ne marche pas bien, ils ne pourront pas se...
Mais ils ne pourront pas dire « Ouais, mais parce qu'il y avait le cahier des charges. »
Mais voilà, c'est ça. Ils ne pourront pas se dédouaner. Là, tout ce qu'ils auront fait, c'est eux qui auront choisi de le faire de cette manière-là. Et si ça ne fonctionne pas, malheureusement, ce sera de leur faute. Que là, en première année, c'est encore facile de dire « Oui, mais on voulait faire ça, mais on n'a pas le droit. » Bon, on verra dans deux ans.
Oui, en plus, vous avez affaire à des gens qui sont relativement jeunes. Donc forcément, ça s'accompagne aussi d'une certaine prise de maturité au fil des ans. C'est-à-dire que vous n'avez plus affaire aux mêmes personnes à la fin qu'au début du cursus, j'imagine.
Totalement. Notamment en deuxième année... Le gros projet de l'année, ce sont les séries, où par équipe, ils doivent tourner une série de 4 épisodes. Et ça, c'est vraiment le projet de la maturité. Avant ce projet, ils sont un petit peu foufou, désorganisés, téméraires. C'est bien d'être téméraire, mais pas tête brûlée. Et après avoir réalisé tout ce gros projet, là, ils sont transformés. Là, on ne retrouve plus les mêmes étudiants. Et là, on voit qu'il y a une avancée, mais qui a été colossale. Donc, c'est en ça que ce projet charnière est intéressant.
Ça me fait me questionner sur la nature de votre activité ici. Parce que vous parlez de donner des cours. Visiblement, vous accompagnez des étudiants pendant tout le long du cursus. Donc, vous n'êtes pas ce qu'on pourrait appeler un intervenant classique qui vient, qui fait son cours, qui reprend sa valise et puis qui s'en va et qui reviendra demain pour faire la suite du cours. Quelles sont vos fonctions, en fait, au sein
de... Alors, plus précisément... Donc j'ai commencé en tant qu'intervenant, hein, intervenant mise en scène, intervenant assistant à mise en scène, puisque j'ai aussi cette corde à mon arc. Et là, dernièrement, je suis référent de la filière première année, c'est-à-dire que c'est moi qui m'occupe de communiquer principalement toutes les infos, de gérer le planning des étudiants première année, de gérer tous les intervenants, leur planning, leur disponibilité, le contenu des cours qu'on voit ensemble. Ça, je les laisse libres, mais voir un petit peu de temps en temps si ils ne débordent pas trop.
Est-ce que c'est adapté ? Est-ce qu'on ne va pas empiéter sur...
Voilà, c'est ça, que ce ne soit pas un écho par rapport à un cours que fait un autre intervenant à côté. Donc voilà, intervenant référent, c'est fatigant. C'est beaucoup de responsabilités, en tout cas. Mais je fais ça avec plaisir et à côté de ça, je continue quand même d'intervenir auprès des étudiants, des étudiants sur certains cours, que ce soit de la prépa à la troisième année.
Et vous avez le temps de faire de la réalisation ou de l'assistanat encore ou...
Alors l'assistanat, non. La réalisation, oui. Ce qu'il faut dire et qui est important, c'est que tous les intervenants à 3IS, vraiment tous, sont en activité à côté, dans le domaine qu'ils enseignent. Et justement, c'est un gros plus parce que ça nous permet, nous, de nous tenir au courant de l'actualité, puisque c'est principalement nous qui la faisons. Et aussi, ça c'est la petite carotte qu'on met aux étudiants, c'est qu'on peut être leur premier recruteur pour des stages ou à l'issue de leur cursus, de dire « Ah, je t'ai repéré et depuis la première année, tu fais du très bon travail, donc peut-être qu'on peut continuer ensemble. Je te propose ça. »
Le cinéma est un art qui a évolué énormément, notamment dans ses modes de fabrication avec l'arrivée du numérique. Comment est-ce que vous vivez, vous, en tant que professeur, intervenant, ces nouveaux moyens de production ?
Ça coûte moins cher. Heureusement, parce que si on devait s'entraîner avec de la pellicule encore... Non, mais ça va très vite. Ça va trop vite. Donc, il faut, comme je le disais précédemment, se tenir au courant de toutes les nouvelles technologies qui sont créés, et ça, ben, les intervenants hein, sont au courant, puisque c'est leur métier. On s'adapte. Il y a du bon et du moins bon, dans le sens où, bon, ça va trop vite. Pour certains, c'est bien, hein, parce que ça permet d'aller plus loin dans la créativité. Mais il ne faut pas tomber dans le piège en se disant parce que ça y est, on a du 8K ou de l'image 12K que nos films seront meilleurs. Non. L'important, la base, c'est le scénario.
Ouais. Mieux vaut un film tourné en 8 mm, mais qui est intéressant que...
Bah, par exemple, ou même à l'iPhone. Il y a des films qui sont tournés à l'iPhone. Mais là encore, vous voyez, on sort d'un trou pour aller dans un autre. Pour certains, alors pas étudiants, mais peut-être autodidactes, hein, c'est super parce que comme tout ça s'est démocratisé, bah, n'importe qui, demain, peut tourner un film. Et ça, c'est super. Mais voilà, y en a qui vont se prétendre vidéaste ou réalisateur, alors que non, ils savent simplement faire une belle technique. Mais derrière, c'est plat.
Ouais. On en revient à la multifacette de cet art, hein, qui mélange à la fois technique et art, enfin dans le sens artistique, création artistique, et qui est à cheval sur l'industrie et en même temps, bah, toujours cet art, quoi, cette volonté de créer un objet qui va être une œuvre d'art en définitive.
Bah, je vais prendre l'exemple du drone. Le drone qui s'est démocratisé. Alors, ça permet une créativité de dingue. Hein. On peut faire des plans qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques années. Mais donc, certains vont en abuser et ils vont le faire. Mais j'ai envie de leur dire, OK, mais qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça dit dans ton film? À part être joli, puisque c'est toujours impressionnant de voir des vues aériennes. Hein. Mais ça dit quoi? Et donc, c'est là où certains vont rester figés. Parce que, OK, c'est beau, mais c'est gratuit, en fait. Ça raconte rien d'exceptionnel. Et c'est le piège avec toutes ces nouvelles technologies comme les stabilisateurs. Maintenant, tout le monde a ça. Et donc, en faisant le stabilisateur, on en oublie les plans fixes et la composition du cadre. Alors qu'avec une composition du cadre, c'est comme la peinture. On peut dire mille choses par rapport à où est placée la fenêtre, où sont les points d'intersection, que révèlent les points forts à l'image. Voilà, un plan fixe peut raconter mille choses. Un plan fait au stabilisateur, OK, on a fait un plan séquence qui bouge dans tous les sens, c'est super, mais à part l'exploit technique...
C'est ça, il faut que ça raconte quelque chose.
Mais toujours,
on parle avec la caméra, hein. C'est quand même la base de ça. Quoi. Ouais. Est-ce que vous pensez que le cinéma va continuer d'exister en tant que tel, vu l'évolution non seulement des moyens de production, mais aussi des moyens de diffusion? Donc évidemment, je veux parler de l'énième crise, on a à peu près le même âge, je pense, donc on a entendu parler, on a grandi, je pense, avec la crise du cinéma. Il y avait toujours une crise du cinéma. Celle-là, elle a quand même l'air un petit peu plus violente que les autres. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que ça va amener des nouvelles choses? Est-ce que vous pensez que c'est un peu chaud pour la salle?
Mais il y aura toujours les passionnés hein, qui veulent voir les films au cinéma. Et je pense que parce que eux seront toujours là, le cinéma existera toujours. Je conçois mal un monde où il n'y a plus de salles obscures. Bah, ce serait triste, déjà. Mais je pense que même si les spectateurs qui vont dans les salles sont minoritaires, il restera des salles de cinéma, même si elles deviennent plus petites, mais elles seront toujours là. Alors c'est sûr, hein, Netflix, Amazon Prime, Apple TV, voilà, ça c'est le futur. Il y a du bon comme du moins bon. Merci Netflix d'avoir été là pendant le confinement. Ça permet plus de production de voir le jour, qui n'aurait pas vu le jour dans les salles obscures, puisque ces plateformes de diffusion prennent des risques aussi et vont aller chercher des projets qui n'auraient été pas produits pour le grand écran. Donc heureusement qu'ils sont là. Mais voilà, il y a toujours le point négatif. Et ça, nous... c'est quelque chose à laquelle on est confronté. Nos étudiants vont de moins en moins au cinéma. Bon, déjà parce que c'est vrai que ça coûte cher, surtout pour des étudiants. Hein. Ça a augmenté aujourd'hui.
10,50 €.
Ben voilà,
samedi soir, là, j'y suis allé, 10,50 €.
Sans réduction, sans rien, 10,50 €. Alors si, en plus, on va le voir en 3D, on peut rajouter 3 €. Donc si on y va à 4 avec, en famille, voilà. Donc voilà, c'est cher. Mais le point négatif, c'est que vu que maintenant, ils sont habitués aux plateformes genre Netflix, ils n'ont plus l'habitude eux-mêmes de sortir dans les salles puisque ça demande un effort. Et que pendant la projection, le film dure, on va dire, 2 heures. Pendant ces 2 heures, ils sont confinés. Ils ne doivent rien faire d'autre. Et on est confronté à des étudiants qui Bah, pendant des projections, hein, parce qu'on a une salle de projection à Troisiès, pendant une projection, bah, demande à faire une pause. Parce qu'ils sont plus habitués à voir un film du début à la fin, en silence. Enfin, en silence. Il peut y avoir de l'ambiance dans une salle de cinéma, évidemment. Heureusement. Ouais. Mais voilà, sans aller aux toilettes, sans vouloir faire une pause clope, sans vouloir se faire un bol de céréales, ou aller voir le copain, ou encore pire, voir le film en plusieurs fois. Ça, je comprends pas. Alors, qu'est-ce que t'as vu comme film hier soir? Bah, j'ai regardé Usual Suspect. Et t'as aimé? Ben, je sais pas, je l'ai pas fini, je continue ce soir. Mais tu t'es endormi, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, non, je voulais faire une pause et voilà. Je comprends pas.
Non, mais on a un rapport au film qui a énormément évolué, ça c'est indéniable. Je pense aussi que c'est dû aussi à l'arrivée des séries, sans vouloir culpabiliser qui que ce soit, hein, c'est pas du tout le truc, mais je pense que le fait que les séries proposent des épisodes de 20 minutes, 50 minutes, notre rapport à des films de 2h, 2h30, 2h45, en plus il y a des films de plus en plus, j'ai l'impression, qui durent, là le dernier Batman par exemple, c'est quand même 3h, donc il faut aller au cinéma 3h, c'est pas rien quoi. Bon, après une fois qu'on y est, personnellement, les 3h sont passées très vite, mais bon, c'est vrai que ce rapport-là est en train de se perdre, j'ai la sensation, et à mon sens... Mais c'est peut-être une fausse vision. Le prix des places n'aide pas. C'est-à-dire que c'est difficile. C'est-à-dire qu'on est passé d'un art qui était extrêmement populaire, où on payait sa place 4 francs, 3 francs, hein, on parle en francs. Et là, on se retrouve avec des places à 10,50 euros dans les grandes chaînes. Ce n'est pas l'unique réalité. Il y a plein d'autres choses où on paie moins cher, à commencer par l'Utopia à Bordeaux, hein, pour ceux qui sont à Bordeaux. Mais il y a plein d'autres cinémas de quartier où c'est moins cher. C'est plus compliqué quand même, ça reste plus compliqué, je trouve, d'aller payer. Et puis effectivement, le rapport aux plateformes, voilà, ça a tout changé, quoi. Ça a tout bousculé. Effectivement, on est chez soi. Par contre, on perd cette expérience de la salle qui, à mon avis, est quand même un peu le cœur quand même de cet art-là.
Mais oui, je trouve ça dommage. Alors, c'est sûr, hein, aller au cinéma, ça devient un luxe. Alors moi, à l'époque, hein, j'allais voir 3 films dans la journée pour presque rien. Aujourd'hui, c'est vrai que moi-même, je suis plus sélectif. Je ne vais pas aller voir tout ce qui sort comme je faisais avant. Maintenant, je vais voir, je vais sélectionner le film qui vaut le coup d'être vu au cinéma.
En fait, j'ai l'impression que les producteurs et les studios réfléchissent en termes de... est-ce que ça va valoir le coup de le voir sur grand écran? Parce que c'est comme ça qu'on s'est mis à penser avec cette histoire. On se dit, ouais, mais est-ce que ça vaut le coup que je le vois sur grand écran? Et donc, on va, tous les films sociaux, en France, on a un gros tissu de ça, hein, quand même, on tire beaucoup de ça. Tous ces films-là vont passer à la trappe, sauf exception. Donc, je pense notamment à Illusion perdue, qui est typiquement pas forcément un film qu'on irait voir sur grand écran. Mais je pense aussi que notre rapport à ça, il est faussé. C'est-à-dire qu'on a une vision qui est très, très squattée par des studios comme Disney. Une fois de plus, j'ai pas du tout envie de reprocher quoi que ce soit, hein. Chacun fait son business, il n'y a aucun problème, mais je trouve qu'en fait Disney, là où ils sont très forts, c'est qu'ils ont réussi à nous faire croire que leurs films valent le coup d'être vus sur grand écran parce que c'est bourré d'action, d'explosion, de ci, de là, et que ça se voit sur grand écran. En réalité, on va au cinéma voir des gens sur grand écran pour partager de l'émotion sur grand écran et pour voir des choses qu'on ne verrait pas ailleurs sur grand écran. Quand on a un plan sur un visage, un gros plan sur grand écran, on peut scruter ce visage, on peut scruter donc l'émotion et partager cette émotion. C'est ça qui est intéressant. Donc, je trouve que en fait, là maintenant, le jeu parmi tous les producteurs, les studios, tout ça, c'est comment on va vendre que nos films sont intéressants à voir sur grand écran. Et là-dessus, je pense qu'il est indéniable que Disney est en train de gagner cette guerre ou cette bataille, parce qu'ils ont réussi à faire rentrer dans l'esprit des gens que si c'est pas un film d'action énorme où il va y avoir des explosions, des batailles, des trucs ou des choses de proportions épiques, alors ça vaut pas le coup d'aller le voir sur grand écran. Je sais pas ce que vous en pensez.
Évidemment, il y a des effets spéciaux, ça fait du bruit et c'est impressionnant, hein, dans une salle de cinéma. Voilà, j'ai adoré regarder Avengers sur grand écran. En plus, on a l'ambiance de toute la salle, on a l'impression d'être dans la finale de la Coupe de France. Voilà, moi, c'est cette énergie que je cherche aussi en allant au cinéma. Mais ça marche aussi pour les films plus intimistes. Et j'espère que ces films auront encore leur place dans les cinémas, parce qu'il ne s'agit pas forcément d'aller voir que des effets spéciaux et du bruit, parce que ça pète de partout. Aller au cinéma, c'est aussi être hors du temps. C'est-à-dire, c'est s'accorder un moment pour soi. Il n'y a pas le chat qui nous dérange, il n'y a pas le voisin qui vient frapper à la porte, on n'est pas dérangé par les SMS. Sauf urgence, au cinéma, on peut aller se lever pour aller pisser. Mais bon, on attend vraiment le dernier moment. C'est cette suspension dans le temps qui est intéressante quand on va au cinéma. C'est qu'on y va vraiment pour ça. Qu'à la maison, parfois, et c'est vrai, hein, ça m'arrive aussi, c'est allez, on se le met en fond tant qu'on fait autre chose. Et puis on a 60% de notre attention qui est portée sur autre chose et les 40% au film. Au cinéma, c'est les 100%. Donc c'est ça qui est beau aussi en allant dans les salles. Et pour revenir au sujet précédent, ce que je trouve triste et malheureux hein, aujourd'hui avec les jeunes, c'est j'ai l'impression qu'ils veulent avoir le contrôle sur tout. On parlait des séries, ils peuvent se faire 50 épisodes de la même série s'ils veulent. Ils peuvent mettre pause au milieu d'un film, le reprendre le lendemain. Ils peuvent regarder petit bout par petit bout. Ils veulent ce contrôle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la norme, c'est 2h30 pour un film, peut-être.
Ouais.
Donc, voir un film pendant 2h30, du début à la fin, sans rien avoir à faire d'autre, pour beaucoup, c'est compliqué. Ça nécessite de l'effort. Et c'est en ça que je trouve dommage avec ces plateformes, c'est que ça les a habitués à ça. Enfin, je parle de ces plateformes, mais c'est aussi YouTube.
Oui, puis le rapport au téléphone, à l'écran, d'une manière générale.
Téléphone,
aussi.
Voilà, parce que sur les téléphones, on regarde quoi ? Des vidéos de 30 secondes, une minute, et puis on en a marre et on change.
Là, on en est tous là. Hein. C'est les jeunes, mais c'est vrai que c'est nous aussi. Hein. Notre rapport à l'écran, il a été transfiguré complètement. Quoi. Une dernière question, avant de vous laisser tranquille. je la pose quasiment à toutes mes interviews. Comment est née votre cinéphilie ?
Ouf. J'ai l'impression d'être en entretien individuel pour l'entrée à 3IS. Je vais faire quasiment la même réponse que tout le monde. Je suis dans une famille où on regardait beaucoup de films. Mes parents, hein, mes frères et sœurs les regardaient en pur divertissement. Hein. Moi, j'allais plus loin. Vous voyez comme les séquences d'ouverture dans Toy Story où Andy s'imagine des films avec ses jouets. Moi, je faisais pareil. Je m'imaginais des scènes, je créais des ralentis avec mes tortues ninja, et j'étais fasciné par ça. Et donc, j'étais un degré plus loin dans le visionnage des films. Toutes les semaines, j'allais au ciné avec mes parents, à l'époque où ça coûtait 3 francs. Toutes les semaines, c'était le petit rituel, et vraiment, je me suis rendu compte... Alors, c'est vraiment du pur personnel, hein, mais je me suis rendu compte... vraiment, je devais avoir 10 ans. Au cinéma, il y a le film Terminator 2 qui sortait. Je ne sais pas pourquoi, j'avais absolument envie de le voir. Peut-être parce que j'en entendais parler à la télé, tout le monde en parlait comme le gros film événement. Sauf que c'était interdit aux moins de 12 ans. Et le mercredi soir de la sortie, mon père amenait mon grand frère à la projection. Bon, j'ai pleuré tout ce que j'ai pu.
Ouais, normal.
Je l'ai eu à l'usure, il m'a emmené. Donc je me suis retrouvé un mercredi soir, alors que le lendemain, il y a école, hein, dans une salle qu'avec des... moi, je les voyais comme des adultes, mais c'était des ados, bourrés d'ados. Dans une ambiance de folie, et moi, j'étais là, 10 ans, j'ai adoré cette ambiance. Bon, le film était une claque. Hein. J'ai vécu vraiment ce moment comme un privilège, et c'est là où je me suis dit, mais j'adore ce que je vois, j'adore cette ambiance, et...
Ça a eu valeur de révélation, quoi.
Mais ouais. Que j'avais déjà, mais ouais, là, c'était vraiment le déclic.
Là, il y a quelque chose, un déclic,
Il se passe quelque chose. Voilà.
OK.
Merci, James Cameron.
merci, Christophe Layton, de votre temps et de votre gentillesse.
Avec plaisir.
Et puis, bonne continuation à 3IS. Donc, si vous êtes à Bordeaux, 3IS École de Cinéma, vous pouvez vous renseigner. Ils ont un super site très clair. Et puis, écoutez, merci et à très bientôt.
Mais avec plaisir. On a aussi des journées portes ouvertes.
Ouais, quand ça ?
Plusieurs fois sur l'année, les samedis, on fait visiter les locaux, où on peut parler aux différents intervenants, aux étudiants également, voir le matériel. Donc c'est avec plaisir qu'on vous accueillera.
Donc si vous êtes intéressé, venez voir le campus magnifique de 3IS à Bordeaux et renseignez-vous sur leur site pour les journées portes ouvertes. Merci beaucoup.
Merci.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, laissez 5 étoiles sur les plateformes qui le permettent et parlez-en autour de vous. C'est la meilleure manière de faire connaître le podcast. Cinexplore est un dérivé de Cinécure, un podcast créé et réalisé par moi, Charles-Edouard Wasselin, pour Vaisseau Hypersensas, dont je remercie tous les membres pour leur patience et leur bienveillance. N'oubliez pas que sur le Discord du Vaisseau, vous trouverez un channel Cinécure où nous discutons de tout ce qui est abordé dans le podcast et bien plus encore. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Cinécure. D'ici là, prenez bien soin de vous, découvrez plein de films. Ciao !